أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Hadirat Muslim Aoud Radio Tranhu décrit ainsi la bataille d'Uhud. Il déclare, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a réuni les blessés et les martyrs. Les blessés ont été soignés et on a organisé l'enterrement des martyrs. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a su que les infâmes Mekwa avaient tranché les nez et les oreilles de certains martyrs musulmans. Parmi ces victimes se trouvait Hamza, l'oncle du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, était fort triste de voir cette scène. Il a déclaré que par leurs actions, les koufars ont légitimé cette vengeance que nous considérions illicite. Or, Allah lui a révélé que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, devait laisser aux koufars faire ce qu'ils souhaitent et que lui, en tant que prophète, ne devait jamais abandonner la compassion. Ceci est l'enseignement que préconise l'islam. On trouve également des récits sur l'enterrement de Hamza. La dépouille de Hamza a été couverte d'un seul tissu. J'avais brièvement mentionné ces détails auparavant, voire j'en avais fait mention en détail. Je présente des faits non évoqués dans le passé, quand le linceul couvrait sa tête, ses pieds se dénudaient, et lorsque le tissu était tiré vers les pieds, son visage était à découvert. Sur ce, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a ordonné de couvrir son visage et de recouvrir ses pieds avec de l'herbe de Harmar ou d'Isrir. Hamza et Abdullah bin Jahash, qui étaient son neveu, ont tous deux été enterrés dans la même tombe. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dirigé d'abord la prière funéraire de Hamza. Ceci est le récit à ce sujet. Il y avait aussi débat sur le fait si on avait accompli ou non la prière funéraire des martyrs d'Uhud. J'en ai fait mention dans le sermon précédent. Il existait la tradition de lamenter ou de pleurer à la mort d'un défunt. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a interdit cette pratique avec une grande sagesse. Abdullah bin Omar, radhiyallahu anhu, rapporte ceci. Lorsque le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est rentré d'Uhud, il a entendu que les femmes des Ansar pleuraient et se lamentaient de la mort de leur mari. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a demandé « Que se passe-t-il? Pourquoi personne ne pleure la mort de Hamza ?» Quand les femmes des Ansar en furent au courant, elles se réunirent pour lamenter le martyre de Hamza, radhiyallahu anhu. Ensuite, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, s'est endormi. Il se trouvait peut-être à quelque distance, il était peut-être dans la mosquée. Et lorsqu'il s'est réveillé, eh bien ses femmes étaient encore en train de pleurer. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a demandé « Vont-elles continuer à pleurer ainsi en prenant le nom de Hamza? Ne vont-elles pas cesser? dites-leur de repartir. » Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur demanda de rentrer chez elles et de ne jamais se lamenter ou de s'affliger de la mort d'une personne à partir de ce jour. C'est ainsi que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui leur a interdit de se lamenter sur leur mort et il a supprimé toute forme de gémissement et de hurlement sur les morts. Ainsi, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a pris en considération avec sagesse les sentiments des femmes des Ansar. Au lieu de les empêcher de se lamenter sur la mort de leur mari et de leur frère, il a d'abord attiré leur attention sur Hamza et il a demandé s'il n'y avait personne pour pleurer sa mort. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était fort triste de voir la dépouille de Hamza après son martyr et la mutilation qu'elle avait subie. Mais en constatant que les femmes Ansari ne cessaient pas de pleurer, eh bien, il a cité son exemple pour mettre fin à cette coutume. Et ainsi, il leur a enseigné la patience. Pareille manière de conseiller était des plus efficaces. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, quant à lui, a ressenti jusqu'à la fin de ses jours la tristesse de la séparation de Hamza. Il en faisait mention tout le temps. Lorsque Hamza est tombé à martyr, Kab bin Malik avait écrit dans ses vers funèbres « Mes yeux sont en larmes, ils ont raison de pleurer le décès de Hamza, mais à quoi bon ces sanglots, ces lamentations sur la mort du lion d'Allah ?» Hamza, le lion d'Allah, le jour de son martyr, le monde s'est exclamé, un vaillant guerrier n'est plus. Voici les détails sur l'enterrement de Moussa ben Omer. Quand le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est arrivé tout près de sa dépouille, son visage était face au sol. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, s'est placé à côté de lui. Et il a récité ce verset. Min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadallahu alayh. Fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Parmi les croyants, il y a des hommes qui ont été fidèles au pacte qu'ils ont fait avec Allah. Il y en a parmi eux qui ont accompli leurs vœux. Et il y en a qui attendent encore. Et ils n'ont pas changé leurs conditions le moindrement. Par la suite, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam témoigne que vous serez comptés comme des martyrs auprès d'Allah le jour de la résurrection. » Ensuite, en s'adressant à ses compagnons, le saint prophète paix soit sur lui a déclaré « Visitez ces martyrs et saluez-les. Par celui qui détient ma vie, jusqu'au jour dernier, ces martyrs répondront à ceux qui vont les saluer. » Abu Rum bin Omer, le frère de Moussa bin Omer, Souhaibit bin Saad, et Amin bin Rabia ont placé à la dépouille de Moussab dans sa tombe. Dans son ouvrage « Sirat Khatam al-Nabiyyin », Hazrat Mirza Bashir Ahmad Seb déclare à ce propos. On trouve mention de Moussab bin Omer parmi les martyrs d'Uhud. Il était le premier muhajir à se rendre à Médine en tant que missionnaire de l'islam. À l'époque de l'ignorance, Moussab était considéré comme le plus élégant et le mieux habillé parmi les jeunes hommes de la Mecque. Et il vivait dans un grand confort et dans un grand luxe. Après avoir accepté l'islam, sa condition s'est complètement transformée. En fait, on raconte qu'à une occasion, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a vu vêtu d'un tissu couvert de nombreuses pièces rapiécées. Cela a rappelé au saint prophète Mohammed paix soit sur lui sa vie antérieure et ses yeux débordaient de larmes. Lorsque Mousab est tombé en martyr à Uhud, il n'avait même pas assez de tissu pour couvrir entièrement son corps. Si ses pieds étaient couverts, sa tête était exposée, et si sa tête était couverte, ses pieds étaient nus. C'est pourquoi, conformément aux instructions du saint prophète Mohammed Pissot soit lui, sa tête a été couverte d'un tissu et ses pieds ont été recouverts d'herbe. Un jour après la bataille de Uhud, le saint prophète Mohammed Pissot soit lui a également fait une prière. Rifa bin Rafi Zurqi rapporte ceci. Il déclare qu'après avoir terminé l'enterrement des nobles compagnons, le saint prophète Mohammed Pissot soit lui est monté sur son cheval et les musulmans l'entouraient. La plupart d'entre eux étaient blessés et la majorité de ces blessés étaient issus des Banu Salama et des Banu Abd al-Ashala. 14 femmes l'avaient accompagné. Quand ils sont arrivés au pied du mont Uhud, le saint prophète Pissot soit lui a dit « Faites une rangée afin que je puisse louer mon Seigneur. » Les hommes se sont rangés derrière lui et les femmes se sont rangées derrière les hommes et le saint prophète a prononcé ces mots. Ô Allah, toute louange te sied à toi. Ô Allah, nul ne peut retenir ce que tu as répandu, et nul ne peut répandre ce que tu as retenu, et nul ne peut guider celui que tu as égaré, et nul ne peut égarer celui que tu as guidé. Nul ne peut offrir ce que tu retiens, et nul ne peut retenir ce que tu offres. Et nul ne peut rapprocher ce que tu éloignes, et nul ne peut éloigner ce que tu rapproches. Ô Allah, accorde-nous en abondance tes bénédictions, ta miséricorde, ton pardon et ta générosité. Ô Allah, nous demandons de ces bénédictions de ta part qui ne diminuent pas et qui ne disparaissent pas. Ô Allah, les jours de privation, nous demandons des bénédictions de ta part. Ô Allah, les jours de peur, nous demandons la sécurité de ta part. Et les jours de pauvreté, nous demandons la richesse de ta part. Ô Allah, je cherche refuge en toi contre le mal de ces choses que tu nous as octroyées et contre le mal de ce que tu nous as interdit. Ô Allah, rends la foi chère à nos yeux et embellis-la dans nos cœurs. Rends l'incrédulité, la dépravation et la désobéissance détestables à nos yeux et fais-nous de ceux qui marchent sur le droit chemin. Ô Allah, fais-nous mourir en étant musulmans et fais-nous vivre en étant musulmans et joins-nous aux vertueux sans que nous soyons humiliés ou tentés. Ô Allah, détruis ces mécréants qui renient tes prophètes et qui entravent ton chemin, frappe-les de ton châtiment. Ô Allah, ô Dieu de vérité, détruis les mécréants parmi les gens du livre. Amin. Le saint prophète Mohammed Peso, lui, a récité cette prière en ce moment-là devant tout le monde. J'avais déjà mentionné le rôle des femmes compagnons dans la bataille d'Uhud. Je présente quelques détails supplémentaires à ce propos. Lors de la bataille d'Uhud, les hommes ont ouvert de nouveaux chapitres dans l'histoire de la bravoure et les femmes ont également joué un rôle éminent en servant aux côtés de l'armée islamique. Selon les récits, Umm Salama avait participé à la bataille d'Uhud. Muttalib bin Abdullah bin Huntab relate ceci. En partance pour la bataille d'Uhud, le saint prophète Mohammed Peace be lui s'est arrêté à Sheikhain, dans les alentours de la ville de Médine. Il a passé la nuit là-bas et Umm Salama lui a apporté un morceau de viande rôtie qu'il a mangé, ainsi que du nabith, une boisson faite de fruits pressés qu'il a consommée. Le narrateur déclare que je pense que cela ressemblait à du harira. Anas bin Malik rapporte qu'au jour de Houd, il a vu Aïcha Siddika radhiyallahu anha et sa mère Umm Sulaym. Elle apportait de l'eau dans des outres et elle abreuvait les assoiffés. Selon un récit d'Al-Bukhari, Anas radhiyallahu anhu a rapporté le jour de Houd, quand les musulmans se sont éloignés vaincus du saint prophète Mohammed Peace be lui, c'est-à-dire lorsqu'ils ont été repoussés, j'ai vu Aïcha radhiyallahu anha, la fille d'Abu Bakr, et j'ai vu aussi Umm Sulaym. Elles avaient solidement serré leurs vêtements et je pouvais voir les bracelets de leurs chevilles. Elles allaient rapidement en portant des outres d'eau. Selon un autre rapporteur, elles portaient ces outres sur leur dos. Ensuite, elles versaient cette eau dans la bouche des assoiffés, c'est-à-dire qu'elles leur donnaient à boire. Ensuite, elles revenaient avec les outres pleines et les vidaient dans les bouches des gens à nouveau. La mère d'Abu Saïd Khoudri, Umm Sulayt, venait également avec des outres d'eau de loin et elle les portait pleines à ras-bord et d'autre part, elle donnait de l'eau aux blessés et aux assoiffés. Umm Atiya a également accompli ses services, mais d'autres femmes musulmanes se battaient vaillamment aux côtés des hommes avec des lances et des épées. Parmi elles se trouvait Umm Ammara. Comme je l'ai mentionné dans le précédent sermon, quand elle a vu l'attaque d'Ibn Qamiya contre le saint prophète Mohammed, elle a combattu sans crainte ce chevalier arabe, luttant contre lui avec de multiples attaques jusqu'à ce qu'elle le repousse. Ibn Abi Shayba et l'imam Ahmad bin Hanbal rapportent d'Abdullah bin Masoud que le jour de la bataille d'Uhud, les femmes se tenaient derrière les hommes et elles tuaient les mécréants blessés. Après la bataille, certaines compagnes du saint prophète Mohammed Peace be lui sont venues sur le champ de bataille d'Uhud. Selon les récits, lorsque les polythéistes sont partis, les femmes sont venues auprès des compagnons. Parmi elles se trouvait Fatima radhiyallahu anha, la fille de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Quand elle a rencontré l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, elle l'a embrassé et elle a commencé à laver ses blessures. Ali versait dessus de l'eau de son bouclier, mais il y avait beaucoup de sang qui coulait. Fatima a brûlé une feuille de palmier, l'a transformée en cendre et l'a utilisée pour compresser la plaie jusqu'à ce qu'elle fusionne avec la blessure et le saignement s'est arrêté. Aïcha est sortie de Séchelles avec les femmes de Médine pour obtenir des nouvelles sur la bataille d'Uhud. À ce moment-là, les règles sur le port du voile n'avaient pas encore été révélées. Lorsque Aïcha est arrivée à Harra, elle a rencontré Hind bint Amr, la sœur d'Abdullah bin Amr. Hind était en train de tirer une chamelle et sur cette chamelle étaient les dépouilles de son mari Amr bin Jamou, de son fils Khalad bin Amr et de son frère Abdullah bin Amr. Ces trois dépouilles étaient entassées sur le dos de la chamelle. Aïcha a tenté de savoir ce qui s'était passé sur le champ de bataille et a demandé à Hind si elle avait des nouvelles sur la situation des musulmans sur le champ de bataille. Hind a répondu, « L'envoyé d'Allah, puis soit seul lui et saint sauf, s'il est en sécurité, on peut surmonter tout malheur. » Ses trois proches, son mari, son fils et son frère étaient décédés et elle a porté leur dépouille. Quand Aïcha a demandé des nouvelles, Hind a répondu que tout va bien étant donné que le saint prophète paix soit lui était en sécurité. Tout va bien, si le saint prophète paix soit lui va bien, je vais les enterrer moi-même maintenant. Omé Amara relate ceci. Je m'étais rendu sur le champ de la bataille d'Uhud pour observer ce qui se passait. Je portais une outre d'eau que j'avais apportée pour en offrir aux blessés. J'étais parvenu jusqu'au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au moment où il se trouvait entre ses compagnons. C'était au moment où les musulmans avaient le dessus. Ensuite, soudainement, les musulmans ont subi un revers. Je suis rapidement arrivé tout près du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et je me suis tenu debout prêt à combattre. Avec mon épée, j'empêchais l'ennemi de s'approcher du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En même temps, je tirais des flèches avec mon arc jusqu'à ce que je sois moi-même blessé. Un historien a relaté qu'Omé Amara était la femme qui s'était montrée la plus courageuse pour la protection du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a défendu par une volée de flèches lors du revers pendant la bataille d'Uhud. Son nom complet était Omé Amara al-Mazeniya Nusayba. Nusayba al-Mazeniya, c'est-à-dire Omé Amara, est la seule femme musulmane connue pour avoir participé à la bataille d'Uhud. Selon les historiens, certaines femmes musulmanes se sont rendues sur le champ de bataille après le retrait des polythéistes et elles avaient apporté leur aide aux blessés en leur donnant de l'eau, entre autres. Parmi ces femmes se trouvaient Aïcha radhiyallahu anha, l'épouse du saint prophète Mohammed peace be upon lui, et Fatima Az-Zahra, sa fille. Selon le Sahih d'Al-Bukhari, un narrateur a relaté, « J'ai vu Aïcha et Oumi Sulaim lors de cette occasion. Elles portaient rapidement des outres d'eau sur leur dos et elles versaient de l'eau dans la bouche des gens, puis retournaient pour les remplir à nouveau avant de revenir vers les blessés pour leur donner à boire. » Un auteur relate qu'au moment où la bataille faisait rage, certaines femmes musulmanes se sont préparées pour apporter secours aux combattants. Parmi ces femmes se trouvait également Umm Ayman, la nourrice du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les historiens rapportent qu'Umm Ayman a rencontré le groupe vaincu des musulmans qui avaient l'intention d'entrer à Médine. Umm Ayman leur a envoyé de la poussière au visage et a réprimandé certains d'entre eux sévèrement, leur disant de prendre leurs fuseaux, c'est-à-dire les fuseaux que les femmes utilisaient pour tisser le fil, et de leur remettre leurs épées, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre en charge les tâches des femmes puisqu'ils sont incapables de se battre. Ensuite, elle s'est rendue rapidement sur le champ de bataille. Omé Ayman s'est apprêté à aider les blessés tandis que la bataille faisait rage autour du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au point où elle a été touchée par des flèches des polythéistes pendant ses opérations de secours. Le livre Al-Kamil Fittarikh d'Ibn Asir rapporte que Omé Ayman donnait de l'eau aux blessés lors de la bataille quand Hibban bin Arifa tira une flèche sur elle, elle est tombée. Et elle était en partie dénudée. Ceci fit rire à cet ennemi de Dieu. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui était très affecté par cet événement. Il a confié à Saad bin Abi Waqash une flèche qui n'avait pas de pointe et il lui a ordonné de lui envoyer cette flèche. Sa'd a découché cette flèche qui a pénétré dans la poitrine de Rabban et il est tombé en gémissant, dénudé. Le saint prophète Mohammed Pessoa sur lui souriait à cette vue. Et il a déclaré que Sa'd a vengé Oumé Ayman. Un historien a écrit qu'à la fin de la bataille, certaines femmes croyantes se sont rendues sur le champ de bataille. Il déclare que ces éminentes femmes se sont rendues sur le champ de bataille lorsque les musulmans ont commencé à poursuivre les polythéistes et que les signes de la victoire étaient apparents. En bref, il est possible que ces musulmanes se soient rendues sur le champ de bataille d'Uhud pour les raisons suivantes. Ce sont là des raisons plausibles. En tout cas, elles n'avaient pas rejoint les rangs de l'armée. La première possibilité est qu'il se peut que la nouvelle de la victoire initiale des musulmans est parvenue à Médine et elles ont pu avoir entendu cette nouvelle et elles se sont dirigées vers Uhud. Cependant, la situation sur le champ de bataille avait déjà changé à ce moment-là, donc ces musulmanes ont également pris part à la bataille. De plus, il est également plausible que lorsque la rumeur du martyr du Saint-Prophète, paix soit sur lui, s'est répandue, ces femmes dévouées se soient précipitées vers Uhud dans une grande agitation. Elles ont donc pu participer à la fin de la bataille. Pendant ce temps, d'une part, elles avaient érigé une barrière défensive et d'autre part, elles soignaient les blessés. En tout cas, Allah est le plus savant de toutes choses. En décrivant l'incident de la bataille d'Uhud, Sa'd a raconté que le jour de la bataille d'Uhud, le Saint-Prophète, paix soit sur lui, avait réuni ses parents pour lui. Un des polythéistes avait enflammé les musulmans. Le Saint-Prophète, Mohammed, paix soit sur lui, a dit à Sa'd, « Envoie tes flèches, que mes parents soient sacrifiés pour toi. » Rassembler ou réunir ses parents signifiait l'expression « que mes parents soient sacrifiés pour toi ». Sa'd déclare, « J'ai visé cet individu d'une flèche sans pointe au flanc. » Et je l'ai tué. Les vêtements couvrant ses parties intimes se sont ouverts et j'ai vu que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a ri de joie. Selon un autre récit des chroniques, ce polythéiste se nommait Hibban. Il avait décoché une flèche qui a touché la partie inférieure du corps d'Oumé Ayman, Oumé Ayman qui était en train de servir de l'eau aux blessés. Hibban en a ri. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a présenté une flèche à Sa'd. Hibban a reçu cette flèche à la gorge. Il est tombé à la renverse et il s'est dénudé. Sur ce, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a souri. La joie et le sourire du saint prophète Mohammed paix soit sur lui étaient dus à cette grâce d'Allah lorsqu'il a écarté cet ennemi redoutable avec une flèche qui n'avait même pas de pointe. Il ne s'agissait que d'un simple fût, d'un simple bâton qui l'a tué. Un auteur a mentionné le courage et l'intelligence du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en ces termes. Lorsque les cavaliers Quraishi, sous la direction de Khalid bin Walid, ont attaqué les musulmans et tué Abdullah bin Jubair et ses compagnons, ces cavaliers par la suite se sont présentés sur le flanc de l'armée islamique. Ces cavaliers, sous la direction de Khalid bin Walid, avaient au préalable tué Abdullah bin Jubair et ses compagnons, qui étaient postés sur la colline. Ensuite, ces cavaliers ennemis se sont présentés sur le flanc de l'armée islamique. À ce moment-là, seuls 9 compagnons étaient présents aux côtés du saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Les autres combattants s'étaient avancés très loin sur le champ en poursuivant l'ennemi. Lorsque le Saint-Prophète, paix soit sur lui, a vu Khalid bin Walid et les cavaliers Qurayshites, il a immédiatement pris une décision courageuse. Sinon, il aurait été très facile pour lui de se mettre dans un abri sûr, car les cavaliers ne l'avaient pas encore repéré. Mais en pareil cas, cela aurait causé de nombreuses pertes à l'armée islamique. Le Saint-Prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aurait pu se protéger, mais cela aurait pu causer la perte de l'armée islamique. C'est pourquoi il a pris cette décision. Au lieu de s'enfuir, le saint prophète, paix soit sur lui, a lancé un slogan pour que l'armée musulmane regarde en arrière. Mais l'armée musulmane était loin devant, et il était certain que les cavaliers ennemis entendraient sa voix avant les musulmans. En cette heure d'épreuve, l'intelligence et le courage sans pareil du saint prophète, Mohammed, paix soit sur lui, se sont manifestés. Car il avait décidé de mettre sa vie en danger pour sauver ses compagnons et il a appelé les compagnons d'une voix très forte et il a lancé « Aux serviteurs d'Allah, tournez-vous dans cette direction. » Sa voix résonnait dans tout le champ des batailles. Les compagnons ont également ressenti la délicatesse de la situation, car ils étaient assez loin. Ainsi, avant qu'ils ne réagissent, un groupe de cavaliers coréchites a attaqué le saint prophète Mohammed Pessoas à lui, et les autres cavaliers ont commencé à encercler les musulmans rapidement. On trouve également mention du fait que, même blessé, le saint prophète Mohammed Pessoas lui a gardé son sang-froid et il guidait les compagnons et les encourageait. D'autre part, Utba bin Abi Waqqas, le frère de Sa'd bin Abi Waqqas, avait envoyé une pierre sur l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, atteignant sa bouche et cassant son incisive latérale inférieure, c'est-à-dire la dent située entre l'incisive centrale et la canine. Au même moment, sa lèvre inférieure fut déchirée. L'imam Ibn Hajar al-Asqalani, l'exégète d'Al-Bukhari, affirme que la dent était partiellement cassée et non déracinée. En tout cas, le saint prophète Mohammed Pessoas lui a formulé la prière suivante contre Utba bin Abi Waqqas. Allahumma la yahulu alayhi al-hawl hatta yamuta kafiran. Oh Allah, ne permet pas qu'une année se passe sans qu'il ne meure dans un état de mécréance. Allah a exaucé cette prière d'une manière telle que Hatib bin Abi Balta a tué Utba bin Abi Waqqas le jour même. Hatib relate, quand j'ai vu le comportement lâche d'Utba bin Abi Waqqas, j'ai immédiatement demandé à l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans quelle direction Utba était parti. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, m'a indiqué la direction et je me suis immédiatement mis à sa poursuite jusqu'à le retrouver à un endroit précis. Je l'ai immédiatement frappé de mon épée, lui tranchant le cou, et je suis reparti. Je suis allé de l'avant, j'ai pris son épée et son cheval, et je les ai apportés au saint prophète Mohammed, paix soit à lui. Après avoir entendu cette nouvelle, l'envoyé d'Allah, paix soit à lui, a répété à deux reprises « Radallahu anka, radallahu anka », autrement dit « Allah est satisfait de toi, Allah est satisfait de toi ». Umm Amara, c'est-à-dire Nusayba, Zayd bin Asim, son mari, et ses deux fils, Khubayb et Abdullah, avaient tous participé à la bataille d'Uhud. J'en ai fait mention dans le passé. Le saint prophète Mohammed Pessoas à lui leur avait dit ceci, « Qu'Allah fasse descendre sa miséricorde sur toute votre famille. » Ou selon un autre récit, il leur a dit, « Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse votre famille. » Et suite à cette prière, Umm Amara a dit au saint prophète Mohammed Pessoas à lui, « Priez pour que nous soyons avec vous au paradis. » Et le saint prophète Mohammed Pessoas à lui a prié, « Oh Allah, accorde-leur ma proximité et ma compagnie au paradis. » Umm Amara a déclaré, « Désormais, je ne m'inquiète plus de ce qui peut m'arriver en ce monde. » Tel était l'exemple du courage de ces femmes compagnons sincères de leur amour et de leur dévotion à l'égard du saint prophète Mohammed Pessoas à lui, ainsi que leur esprit de sacrifice pour obtenir la satisfaction d'Allah et pour la cause de sa religion, par rapport à laquelle le monde n'était rien. Parfois, le monde a grande importance pour ces femmes éprises de ce monde, mais ici, ces femmes-là étaient prêtes à sacrifier tout pour la religion. J'évoquerai d'autres parties de ces récits à l'avenir, Inch'Allah. Après la prière de Jumma, je dirigerai la prière funéraire en mémoire de certains membres décédés, et je présenterai aussi quelques détails sur chacun. Je débute par le regretté Hassan Khalid al-Naqib, sahib originaire de la Syrie. Il est décédé récemment à l'âge de 78 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était moussi et il laisse derrière lui son épouse, un fils et une fille. Il avait fait la baïra à l'époque du quatrième calife et par la suite, grâce à ses prédications, son fils a également fait la baïra. Sa femme et sa fille n'ont pas encore fait la baïra. Son fils Hassam al-Naqib Sahib écrit ceci. Mon père était comme mon ami, mon compagnon. C'est lui qui m'a montré la voie à suivre pour accepter le Messie premier alayhi salam. Durant les années 90, mon père a connu la Jamaat par le biais de l'émission L'Ikram al-Arab du quatrième calife. Auparavant, mon père avait une vision de la religion qui se limitait à l'enseignement de la bienveillance envers autrui. Toutefois, tout a changé lorsqu'il a suivi l'émission L'Ikamal Arabe. Et il a déclaré que s'il existait un érudit religieux vertueux, c'était bien lui, c'est-à-dire feu le quatrième calife, et que c'était ces personnes-là qui présentaient la vraie essence de l'islam. À cette époque, mon père avait environ 50 ans, et c'est là qu'il a commencé à apprendre à accomplir la salat, alors qu'il n'avait jamais prié auparavant. Par la suite, il a observé la salat avec une telle assiduité que je ne me souviens même pas d'une fois qu'il aurait manqué la prière de tahajjoud. Mon père a fait la baïra en 2003, et un mois plus tard, il m'a également convaincu de le faire. C'était durant les derniers jours de la vie du quatrième calife. Mon père a découvert le système d'Al-Wasiya par l'entremise d'Abdul Hayy Bhatti Saheb, un missionnaire de la communauté. Et dès qu'il en a entendu parler, mon père a immédiatement adhéré à ce fonds. À l'époque, on lui a recommandé de lire l'ouvrage Al-Wasiya en premier, mais sa réponse était qu'il va lire cet ouvrage par la suite, assurément, il va tenter de comprendre cet ouvrage. Mais son amour pour ce système et sa volonté d'y adhérer allaient demeurer inébranlables. En fait, cette lecture ne fera que renforcer sa conviction, car il était déjà profondément convaincu de sa vérité. Dès son adhésion à la Jamaat, chaque fois que mon père recevait de la littérature de la Jamaat, mon père s'efforçait de l'étudier en détail, prenant des notes sur son ordinateur. Il me confiait souvent qu'il priait pour qu'Allah lui accorde une longue vie, afin qu'il puisse parcourir toute la littérature du Messie premier d'Islam et de ses califes, afin de combler tout ce qu'il avait manqué dans sa vie antérieure avant d'avoir embrassé l'Islam et l'Ahmadiyya. Il avait une grande affection pour le Tafsir Kabir, le commentaire du Saint-Coran du Muslim Aoud, et il l'avait lu à maintes reprises. Chaque fois que j'avais besoin d'informations sur un sujet, mon père prenait soin d'extraire tous les détails concernant ce thème, de la littérature du Messie premier d'Islam, les ouvrages du Muslim Aoud radhiyallahu anhu et de ses califes. Le défunt s'investissait également dans la correction de la traduction des sermons du vendredi que je prononce en direct d'ici. De même, il consacrait des heures à chaque tâche qui lui était confiée pour la correction par le bureau arabophone. Quand je lui disais de se reposer, il me répondait qu'il trouvait du réconfort dans le travail de la Jamaat. Il était souvent ému lorsqu'il vérifiait les traductions des ouvrages du Messie premier d'Islam et de ses califs. Lorsqu'il a fait la baïra, il a partagé l'histoire d'un compagnon du Messie premier d'Islam qui, après avoir fait la baïra, est retourné dans son village où il a frappé à toutes les portes et avait informé les gens de l'avènement du Messie premier d'Islam. Par la suite, mon père a adopté la même pratique, même s'il ne rencontrait quelqu'un que pendant 5 minutes, il l'informait de l'avènement du Messie premier d'Islam. Il disait qu'il était de son devoir que de transmettre les bonnes nouvelles de l'avènement du Messie premier d'Islam. Si quelqu'un saisissait ce message, eh bien, c'est bien. Sinon, au moins, il avait semé la graine. Et c'est à Dieu le guide que de permettre à cette graine de pousser. Voici Mohamed Saheb de la Syrie écrit ceci à propos du défunt. Après la prière du vendredi, le défunt prononçait un dars d'une manière très captivante. De 2019 à 2022, il a occupé le poste de secrétaire d'Ishat. Il avait une grande passion de la lecture des ouvrages du Messie promis l'Islam et il a annoté les mots difficiles et il expliquait l'essence de ces mots qui apparaissaient dans les ouvrages du Messie promis l'Islam. Il aimait lire la traduction du Tafsir Kabir du Muslim Aoud et il avait réuni les récits des prophètes dans un ouvrage concis. Cet ouvrage est désormais accessible sur le site web arabe de la Jamaat et les membres, en particulier les jeunes et les enfants, en bénéficient grandement. Abada Barbouch, le rédacteur en chef du magazine At-Taqwa, témoigne « Le défunt était doté de nombreuses qualités exceptionnelles. Son lien avec le califat était empreint d'amour et de loyauté. » Malgré son âge avancé et ses responsabilités, il offrait volontiers ses services au magazine At-Taqwa. À chaque tâche qui lui était confiée, il y voyait un honneur et s'y dévouait avec diligence. Pendant 7 ans, le défunt nous a apporté une aide précieuse en dactylographiant et en informatisant les anciennes éditions d'At-Taqwa. qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde au défunt, qu'il élève son rang et qu'il accepte ses prières en faveur de ses enfants. Ensuite, j'évoquerai la regrettée Nushaba Mubarak Sahiba, épouse de Jalis Ahmed Seb, missionnaire au département des archives et à Al-Hakam. Elle était l'épouse de ce missionnaire. Elle est décédée récemment dans un accident de route entre Rabwa et Lahore alors qu'elle revenait du Pakistan. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle laisse derrière elle son mari, ses parents, quatre frères et deux sœurs. Le processus du traitement de sa wasiya était en cours lorsqu'elle est tragiquement décédée. Les formalités sont en cours et Inch'Allah, sa wasiya sera acceptée et elle était donc considérée comme Moussia. Son mari Jalis Ahmad partage « Je suis reconnaissant à Allah le Tout-Puissant de m'avoir accordé une épouse dotée de nombreuses qualités. Elle a choisi d'épouser un homme qui a dévoué sa vie à sa foi. Elle a toujours placé la religion en priorité et ne m'a jamais rien exigé de ma part. Elle était toujours source de bonheur pour les autres. » Et elle a servi la communauté à divers postes en tant que secrétaire adjointe aux finances et secrétaire adjointe à la wasiya. Et elle a travaillé avec beaucoup de dévouement et de zèle. Elle m'a également soutenu dans mon travail et ne s'opposait jamais à mon engagement vers la Jamaat. Et elle n'a jamais fait de demandes excessives. Elle avait compris pleinement l'esprit du waqf. Au cours de chaque ramadan, elle complétait 3 ou 4 lectures complètes du Saint-Coran avec la traduction. Elle avait un amour et un respect profond pour le califat. Sa mère, Zainab Nissa Sahiba, partage « La défunte était ma fille cadette. Elle avait un amour infini pour tout le monde et elle était très sociable. Elle nous comblait tous de son amour et elle était la plus sage parmi mes enfants. Sa dévotion envers les prières et les jeûnes était exemplaire et elle était toujours en première ligne pour les activités de la Jamaat. Lorsque j'étais Sadr Lajina dans le village de Hafizabad à Pirkot Thani, elle m'apportait une aide précieuse dans mes responsabilités et après mon installation à Rabwa, elle ne m'a cessé de me soutenir dans les affaires de la Jamaat. » Karim Shahid, le frère de la défunte, dit que la défunte était l'arrière-petite-fille paternelle de Mia Nizamuddin Bafanda Saheb, compagnon du Messie premier Esra. Elle était douce et bienveillante envers les jeunes et les aînés et son amour embrassait tout le monde. Elle avait un lien profond de sincérité et de loyauté envers le califat. Qu'Allah élève le rang de la défunte et qu'il accorde patience et réconfort à ses parents, son mari et ses frères et sœurs. Ensuite, j'évoquerai Razia Sultana Sahiba, l'épouse de feu Abdulhamid Khan Saheb de Rabwa. Elle était la mère d'Abdul Qayyum Pacha Saheb, président national ou émir de la Jamaat de la Côte d'Ivoire et missionnaire en chef de la Côte d'Ivoire. Elle est décédée récemment à l'âge de 92 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, elle était Moussia. Abdul Qayyum Pacha Saheb partage « La défunte était la sœur aînée de feu le respecté Chaudhry Hamidullah Saheb, l'ancien Wakil Allah Tahrik-e-Jadid. Ses parents avaient embrassé l'Ahmadiyya en 1929. Dès le début, la défunte a nourri une profonde passion pour l'étude des ouvrages du recueil Ruhani Khazain. Et elle avait parcouru l'intégralité des volumes du Ruhani Khazain à plusieurs reprises au cours de sa vie. Et elle avait également lu les Tafsir Kabir et d'autres ouvrages de la Jamaat. Elle a occupé le poste de Sadr Lajna et de secrétaire aux finances dans sa région de Darul Uloum Wasti. Abdul Qayyum Pacha Saheb déclare « Certains membres de ma famille ont conseillé à ma mère qu'elle n'a qu'un seul fils et que son mari est décédé. » et de ne pas m'envoyer, moi, son fils à la Jamia pour être missionnaire, car les allocations ne pourraient pas suffire. Ils lui ont suggéré de m'orienter vers une autre filière. Suite à cela, ma mère a répondu, « Mon fils ira à la Jamia. Et quant à nos provisions, Dieu le Tout-Puissant est notre pourvoyeur, et c'est en lui que je place ma confiance. » Il raconte que chaque fois que ma mère recevait sa pension ou tout autre revenu, elle se rendait immédiatement chez le secrétaire aux finances pour offrir ses contributions pour la wasiya. Jamais le secrétaire aux finances n'a eu à se déplacer chez nous pour collecter ses contributions. La défunte laisse derrière elle un fils et deux filles. Son fils Abdul Qayyum Pacha Saheb est actuellement missionnaire en charge de la Jamaat de la Côte d'Ivoire. En raison de ses obligations sur le terrain, il n'a malheureusement pas pu assister aux funérailles de sa mère. Qu'Allah le Tout-Puissant lui accorde patience et courage et qu'Allah élève le rang de sa mère. Ensuite, j'évoquerai Bushra Begum Sahiba, l'épouse du respecté Dr Mohamed Salim Saheb de Lahore. Elle était la mère de Mohamed Naim Azhar Saheb, missionnaire en charge de la Jamaat de la Sierra Leone. Elle a rendu l'âme récemment à l'âge de 78 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, le Tout-Puissant, elle était une moussia. Elle laisse derrière elle deux fils et cinq filles. Son fils Naim Azhar Saheb n'a pas pu assister aux funérailles de sa mère ou à l'enterrement de sa mère en raison de ses responsabilités sur le terrain. Naim Azhar Saheb partage ceci. « Ma mère n'était pas née Ahmadi, mais certains de nos proches parents étaient des Ahmadis et elle aspirait profondément à découvrir la vérité. Elle a beaucoup prié Allah jusqu'à ce qu'elle trouve la paix dans son cœur et finalement, elle a prêté le serment d'allégeance au deuxième calife en 1964. Elle a honoré avec loyauté ce lien tout au long de sa vie et elle était toujours prête à tout sacrifier par amour pour l'Ahmadiyya. Par la grâce d'Allah, le Tout-Puissant, elle était dévouée à la prière et au culte de Dieu. En sus de ses saintes prières quotidiennes, elle se consacrait également aux prières tahajjoud. Elle était douée d'une grande force intérieure, elle était une femme courageuse qui supportait les épreuves en silence sans jamais se plaindre. Toujours en première ligne, lors des appels financiers lancés par le calife de l'époque, elle offrait ses contributions financières à la Jamaat dès la première occasion. Ensuite, elle contribuait des sommes supplémentaires plus tard. Elle aidait chaque personne dans le besoin autant qu'elle le pouvait, ne refusant jamais de tendre la main à qui en avait besoin. Qu'Allah accorde à la défunte son pardon et sa miséricorde et qu'il accepte ses prières en faveur de ses enfants. Ensuite, j'évoquerai le respecté Rachid Ahmad Chaudhry Saheb de la Norvège, fils de Chaudhry Ghulam Hussein, overseer. Il a rendu l'âme récemment à l'âge de 82 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était malade depuis un certain temps. Il a fait preuve d'une grande force, d'un grand courage et d'une patience admirable durant sa lutte contre sa maladie. En 1926, son père Chaudhry Ghulam Hussein, overseer Saheb, s'est rendu personnellement à Kadian, où il a prêté allégeance sur les mains du deuxième calife. Par la suite, il a consacré sa vie au service de l'islam et de l'Ahmadiyya. Il a servi en tant que qazi à la Darul Qada de Qadian et de Rabwa, et il a participé à la construction et à l'entretien de divers bâtiments de la Jamaat. Chaudhry Rashid Saheb, le défunt, a également eu le privilège de servir aux côtés de son père durant les premiers temps de Rabwa. Durant les deuxième et les troisième califats, il a travaillé ardemment en tant qu'électricien pour la Qasr-e Khilafat et pour d'autres bâtiments de la Jamaat. En 1970, il s'est installé en Norvège, où il a toujours été en première ligne du service à la Jamaat. Il a participé bénévolement à la construction du premier siège de la Jamaat en Norvège. Il a rendu d'importants services à la Jamaat, permettant ainsi d'économiser des sommes considérables grâce à son dévouement. Pendant de nombreuses années, il a occupé le poste de secrétaire Umurayama de la Jamaat de la Norvège. Ses fils Muzaffar Chaudhry et Munawar Chaudhry partagent ceci. Notre père nourrissait un amour profond et sincère pour le califat. Il était chargé de toutes les questions liées aux visites du quatrième calife en Norvège. Et le quatrième calife avait l'habitude de le considérer comme son guide en Norvège et il a mentionné ses services dans un sermon du vendredi. Et moi-même, depuis que je suis devenu le calife, il a fait preuve d'une loyauté indéfectible envers moi. Nous nous connaissions auparavant, mais nos liens se sont renforcés davantage. Son père était très proche du mien. Et dès notre enfance, nous avons remarqué que Chaudhry Ghulam Hussein Saheb était toujours souriant. Il était d'un caractère agréable. Et le comportement de son fils Chaudhry Rashid Saheb rappelait beaucoup celui de son père. Qu'Allah, le Tout-Puissant, accorde son pardon et sa miséricorde au défunt. Le défunt était toujours prêt à manifester de la compassion envers autrui, quelle que soit la religion ou l'origine de l'autre. Il laisse derrière lui son épouse, deux fils et quatre filles. Le respecté Inamullah Haq Kawsar Saheb, président national et missionnaire en charge de la Jamaat de l'Australie, était son beau-frère. Qu'Allah, le Tout-Puissant, accorde aux proches du défunt patience et réconfort. Comme je l'ai dit précédemment, je dirigerai la prière funéraire des défunts après la prière du vendredi.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله